chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge, pour vous servir, et avec moi dans le studio, Kumba Makalou, qui dirige la fondation Salif Keita Global pour le traitement équitable des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie.
C'est un grand plaisir de vous avoir pour une deuxième fois dans Le Monde au Féminin, c'était il y a quelques temps, et forcément on va faire un petit peu le point sur l'évolution des mentalités quant à la situation des personnes atteintes d'albinisme. Je vais faire une petite bio sur vous. Kumba Makalou, vous êtes américano-malienne, diplômée en journalisme et communication. Vous avez travaillé pour la société d'édition new-yorkaise Simon & Schuster. Vous avez été directrice marketing de projets spéciaux en Gambie pour le Washington Times. En 2004, vous avez fondé une entreprise de promotion de la cause africaine à travers la culture organisation consciencieuse utilisant la musique pour sensibiliser. Et toutes les capitales de ces mots font en fait votre nom Kumba, c'est ça. Vous avez travaillé sur des tournées américaines, notamment pour Salif Keita, Alpha Blondie, Angélique Kidjo. Vous dirigez depuis 2005 la carrière de Salif Keita et la fondation Salif Keita Global pour le traitement équitable des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Bon voilà, c'est un petit peu un résumé de votre parcours, et forcément vous revenez depuis quelques temps de ce fameux forum qui a été organisé, on va en parler, après donc l'assassinat de cette petite fille de 5 ans le 13 mai 2018 qui a donc mobilisé énormément de personnes au Mali, ce qui est une bonne chose. Votre premier sentiment après avoir organisé tout ça et revenir d'un tel événement, est-ce que vous avez le sentiment que ça va bouger ?
On va faire bouger. J'ai pas le sentiment que ça va bouger tout seul, mais qu'on va continuer. On va continuer à lutter, on va pousser. Les portes sont ouvertes, tout le monde maintenant est au courant de ce sujet. Personne, même le gouvernement, ne peut ignorer du tout ce qui se passe, et la situation actuelle par rapport à la justice qui n'a pas été encore rendue pour cette petite. Donc nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à travailler pour que la justice soit faite et qu'il y ait une amélioration pour la vie des personnes atteintes d'albinisme au Mali.
Dans la presse.
En juillet 2018, au Malawi, la mère et le beau-père d'un enfant albinos porté disparu ont été inculpés de son enlèvement. Depuis, l'enfant n'a toujours pas été retrouvé. James Kashingwe, 12 ans, a disparu dans le district de Falombe. La tante et deux oncles de l'adolescent ont également été arrêtés. Chaque année au Malawi, des dizaines d'albinos se sont pourchassés, tués et amputés de leurs membres utilisés pour des rituels de sorcellerie. Selon l'association APAM, depuis 2014, 148 cas de violence dirigée contre eux, dont 21 meurtres ont été enregistrés dans ce pays. Il faut savoir que moins d'un tiers des dossiers font l'objet d'enquêtes judiciaires qui se concluent dans 90% des cas par un non-lieu ou un acquittement, ce que vous connaissez très bien, j'imagine, Kumba. Et donc, deux mois plus tôt, le 13 mai 2018, à Fana, au Mali, Ramata Diara, 5 ans, a été enlevée de nuit chez elle alors qu'elle dormait auprès de sa mère. La petite fille a été retrouvée décapitée à 150 mètres de la maison familiale. Son assassinat avait donc généré une révolte de la population à Fana, où la gendarmerie, le logement du sous-préfet et d'autres lieux avaient été saccagés, voire brûlés. Ce crime a mobilisé la société malienne et un grand nombre de personnalités dans le monde de la culture, notamment avec donc ce grand forum en novembre dernier pour dénoncer les crimes rituels dont sont victimes les albinos et autres aux enfants en Afrique. Alors Kumba, c'est vous-même qui avez donc organisé ce concert, ce forum au Mali. C'est pas la première fois malheureusement qu'un enfant en Afrique, comme on vient de l'entendre, et c'est pas seulement au Mali, c'est dans d'autres pays, se fait assassiner, massacrer de cette manière. À chaque fois que cela arrive, qu'est-ce que vous ressentez, Kumba ?
c'est difficile à décrire, mais c'est une douleur qui s'en va pas. En fait, même rien qu'entendre ce qui s'est passé avec Ramata, je vois le visage de sa mère, de son père, être dans sa maison et penser à ce qui aurait pu lui arriver ce soir-là et les conséquences pour les personnes qui restent, qui l'ont aimé, qui l'ont connu, et nous, même qui l'ont pas connu, mais on se bat pour elle, on continuera à se battre pour cette petite fille même qu'on n'a jamais rencontrée.
Alors, est-ce que vous avez rencontré justement les parents? Vous avez pu les voir ou pas?
Oui. Ah oui, j'ai passé beaucoup de temps avec eux.
Ouais.
Ils sont vraiment gentils, très humbles dans leur façon d'agir. Ils ont souffert quelque chose que beaucoup d'entre nous ne connaîtrons jamais.
On ne peut pas imaginer.
Non, on ne peut pas l'imaginer. Mm-hmm. Mais ils sont très courageux avant tout parce que ils sont prêts à tout.
Ils ont la volonté de se battre.
Ils ont la volonté de se battre et je suis allée les voir plusieurs fois pour leur expliquer ce qu'on faisait, pour qu'ils comprennent qu'on est là pour eux, pour la cause de leur fille. Ce n'est pas une exploitation, ce n'est rien d'autre, mais on est là pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas oublié, qui soit défendu, qu'il y ait une justice pour leur fille. Et ils ont tout de suite compris, ils ont coopéré avec tout ce qu'on a entamé. Ils étaient au forum, ils étaient au concert, on est en train de faire un documentaire, ils ont participé à ce documentaire. Je leur ai promis, Salif et moi, on leur a promis qu'on ne lâchera pas ça. On ne lâchera pas du tout.
Vous allez faire un cas d'école?
Absolument.
Oui.
Oui.
Mmh. Et maintenant, la société est vraiment mobilisée. On n'a pas vraiment l'idée de l'ampleur de ce mouvement, mais est-ce que ça va vraiment déclencher un mouvement, sachant que bon, la communauté albino, c'est une minorité et c'est toujours très difficile de déclencher ce genre de mouvement, mais il s'agit réellement d'un problème des droits humains absolument effroyable.
Exactement. Et mais l'idée, c'est que normalement, ça devrait être un mouvement que tout le monde devrait nous rejoindre là-dessus. Mais avec le forum, on a vu déjà que le gouvernement n'était pas très partant.
Ah bon?
Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Donc, c'est étonnant ça quand même, à ce niveau-là.
Oui, bon.
c'est difficile de se défiler maintenant que Salif Keïta est passé par là-bas, entre autres.
Ils ont été invités. Il y a eu beaucoup d'informations par rapport à ça, parce qu'ils ont été invités, les démarches ont été faites et ils n'ont pas voulu se manifester, ils n'ont pas voulu soutenir directement, à part un ministère, le ministère de la Justice, qu'on a pu contacter parce qu'ils nous avaient déjà fait la promesse d'aider les personnes atteintes d'albinisme. Quand il était ambassadeur à Washington pour le Mali. Et on a pu le démarcher, ils ont envoyé une représentante, ce qui était très important puisqu'il s'agit de la justice. Mais les autres ministères, ils sont restés silencieux par rapport à ça. Et c'est quand même quelque chose, il faut réfléchir, parce qu'on parle de meurtres qui se passent pendant des élections. Ça, c'est des assassinats qui se passent pendant les périodes d'élections. Donc on vient de passer une période.
On a beaucoup au Nigeria aussi, ce type de problème. Et ce ne sont pas seulement les albinos, c'est aussi d'autres enfants. Au Nigeria, ça peut être n'importe quel enfant. On a ce problème aussi au Gabon, entre autres, de ces crimes rituels. Hein. C'est quand même assez courant d'une certaine manière. Ça.
Absolument.
Parole de femme.
On revient donc au Mali, sur ce forum d'action sur l'albinisme en Afrique de l'Ouest qui s'est déroulé le 15 novembre 2018 à Bamako, organisé par la fondation Salif Keïta, que vous dirigez, Kumba Makalou. L'événement s'est conclu avec un grand concert 2 jours plus tard à Fana, donc Ouramata. Cette petite fille albinos a été tuée. Notre correspondant Kassim Traoré était présent à cet événement de dénonciation des crimes commis contre les personnes atteintes d'albinisme.
C'est la Nigériane experte indépendante des Nations Unies sur les droits de l'homme chargée des questions d'albinisme qui a donné le ton. Ipowasa Ero.
Au cours des 10 dernières années, près de 700 cas d'attaque sur des personnes atteintes d'albinisme ont été signalés dans 28 pays de la région, dont le Mali. Les attaques incluent les meurtres, des mutilations, des enlèvements, des trafics de personnes, des trafics de parties de corps et des cambriolages. Ce sont seulement les cas signalés. choses. La plupart des cas restent non signalés pour de nombreuses raisons, notamment l'implication de membres de la famille et la discrimination historique à l'encontre de ce groupe de personnes.
La jeune artiste sénégalaise, Albinos Makouja, a parlé de l'albinisme au Sénégal.
Il y a beaucoup de mythes qui ont été construits autour de l'albinisme au Sénégal. Il y a eu surtout beaucoup de mythes. On croit encore que les cheveux des albinos, ça rend riche. Ou bien que avoir des rapports intimes avec une femme atteinte d'albinisme peut aussi apporter la richesse. J'ai été victime d'harcèlement sexuel pendant plusieurs années, mais par la grâce de Dieu aussi, j'ai réglé ça par moi-même.
Des moyens de lutte existent sur le plan national, régional et international. Madame Traoré, participante.
Et de vous parler du plan régional de l'ONU pour l'albinisme en Afrique que nous espérons pouvoir faire adopter par notre gouvernement, ce plan-là, l'adapter à nos conditions au Mali et le faire adopter par notre gouvernement pour pouvoir avancer vraiment sur le chemin du combat pour l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme.
La méga star Salif Keïta a épargné le public de son enfance difficile pour évoquer l'affaire Ramata Diarra du nom de cette fillette assassinée à Fana, une localité située à 120 km de Bamako.
Il y a des gens encore qui se trouvent incarcérés en prison centrale parce qu'ils ont manifesté pour l'assassinat de la petite Ramata Diarra.
Voilà, c'était un extrait du reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré Koumba. Par rapport aux gens qui sont incarcérés, là, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les gens qui avaient manifesté violemment et qui se sont retrouvés incarcérés à cause de ça, c'est ça?
Oui, c'est dommage, non, je ne dis pas qu'il faut qu'ils cassent
oui,
tout ça, mais c'est parce qu'ils se sont manifestés d'une telle manière, brûler la gendarmerie, ce genre de choses, que ça a attiré.
Et le problème, c'est que c'est criminel, ça.
C'est criminel. Ouais. Oui. C'est criminel, mais c'est aussi par un manque de, je crois, de manifestation de la police locale qu'ils étaient enragés. Donc je pense qu'on pourrait revoir un peu ce dossier pour au moins essayer de les juger rapidement, oui. Voir quelle est leur peine, mais ne pas les laisser aussi en prison de la même manière.
Sans les juger,
non.
Est-ce que vous savez s'il y a des lois spécifiques pour protéger des minorités telles que les albinos, notamment dans certains pays? Est-ce qu'on se penche sur ce problème-là?
C'est l'idée de notre forum. Il y a un plan régional qui a été écrit ou développé par les Nations Unies et ça a été adopté par 6 autres pays africains. Il n'y en a pas de francophones qui a adopté ce plan. Non. Et notre idéal, ce serait que le Mali soit le premier pays francophone à adopter un plan national par rapport à la protection des personnes atteintes d'albinisme.
Si je ne pouvais.
Cette année, l'Ouganda a organisé son premier concours de beauté pour les personnes atteintes d'albinisme. Parmi les 22 candidats de 6 districts, les juges ont choisi 5 hommes et 5 femmes pour représenter l'Ouganda au concours de beauté Monsieur et Madame Afrique de l'Est à Nairobi qui s'est tenu le 30 novembre 2018. Retour sur cet événement à Kampala avec Blanche Sanou.
Un peu de maquillage avant les défilés sur le podium. Pour les candidats, c'est l'occasion idéale de s'exprimer devant le public présent.
La raison pour laquelle j'ai postulé, c'est que je veux être au devant de la scène pour représenter l'albinisme et aussi sensibiliser. En commençant par les parents de personnes atteintes d'albinisme. Parce qu'il y a des choses qu'ils font aux enfants en pensant qu'ils les aident alors qu'ils ne leur rendent pas service.
Pour les promoteurs, ce concours est une vitrine pour montrer que la beauté n'a pas de frontières. Aujourd'hui est une occasion mémorable car nous avons pu auditionner pour la première fois en Ouganda les personnes atteintes d'albinisme. Nous avons choisi Monsieur et Mademoiselle Albinisme de l'Afrique de l'Est. C'est extrêmement important car la représentation compte. Cela en dit long sur la façon dont la société perçoit la différence. Les organisateurs espèrent que le succès de cette première édition pourra faire tomber les barrières de la stigmatisation.
Je pense que l'année prochaine, ce sera énorme. Il y en aura encore plus que les 22. Je pense que les chiffres vont atteindre une centaine, voire même 200 et plus.
La protection des droits des personnes atteintes d'albinisme est une question d'intérêt public pour de nombreux pays en Afrique de l'Est. De plus en plus de voix s'élèvent pour défendre ces personnes minoritaires victimes de leur handicap.
Et les Ougandais pourront en effet tenter à nouveau leur chance car pour le concours de beauté 2018 des personnes albinos qui s'est tenu à Nairobi, les deux vainqueurs sont Emmanuel Silas Chedrak, 20 ans, de nationalité tanzanienne et Marianne Mwigai, 19 ans, de nationalité kényane. A savoir que le Kenya avait donc déjà organisé d'ailleurs un événement similaire en 2016, mais il était réservé aux nationaux.
Et oui, est-ce que la jeunesse pouvait?
Kumba Makalu, au niveau des commanditaires, vous parlez des élections. Ça veut dire que les candidats sont intéressés. C'est ça que ça veut dire?
Oui.
Bon, alors, ça veut dire que c'est des gens qui sont très connus. C'est des gens qui sont connus, du moins, c'est des gens de la politique, on ne sait pas. Est-ce qu'on arrive à trouver des coupables et à les mettre en prison?
Ben, c'est l'idée, mais souvent, ce n'est pas les personnes, les commanditaires qui sont...
Mais on peut remonter la filière si on arrête ces gens-là.
On les arrête, ils sont là, mais ils ne parlent pas. Ils ne nous disent pas, ils ne nous disent rien, ils n'ont pas peur. Parce que puisque les gens, ils prennent des ordres des personnes qui sont à la tête d'une nation, qu'est-ce qu'ils ont à perdre en gardant leur silence? Ils n'ont absolument rien à cœur, ils ont tout à gagner.
Parce que dans le cas de la petite fille au Mali, dites-moi si je me trompe, c'est le peu d'informations que j'ai pu trouver. On parle d'un gendarme, un ancien gendarme qui avait été radié. On sait déjà suffisamment de choses quand même pour essayer d'aller plus loin, non?
C'est l'idée, mais il est arrêté, personne ne l'a vu, même les gens qui sont les dirigeants, soi-disant, de la ville de Fana, ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Donc,
mais la maman, dans son témoignage à l'AFP, elle dit qu'elle a vu l'homme. Elle peut le reconnaître quand même.
Oui, mais ouais. Ils ne sont pas venus voir, la police n'est pas venue interpeller la maman, jusqu'à présent, depuis mai.
Donc, carrément.
Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas possible. On ne lâche pas cette histoire parce qu'on ne peut pas nous dire que les dossiers sont en cours. Et depuis mai, on n'est pas venu voir la mère pour avoir son témoignage par rapport à ce crime. C'est ridicule en fait.
Mais est-ce que vous-même, à travers votre association, vous vous donnez les moyens d'enquêter?
Voilà, ça c'est quelque chose qui demande des moyens que nous n'avons pas en ce moment, mais que nous cherchons à avoir, c'est ça. Donc on a essayé de le voir, on est parti voir les autorités de notre côté, mais en fait il y a des blocages, on ne peut pas le faire de notre côté.
Et comment vous expliquez que jusqu'ici, encore une fois je vais reparler du Nigeria entre autres, comment vous expliquez que jusqu'ici il n'y ait aucun nom cité? Comment vous expliquez ça?
Ben, je pense qu'il y a des noms qui ont été cités, hein, de présidents qui ont été impliqués d'une manière peut-être indirecte, bien sûr, et toujours c'est...
Non, mais je veux dire au niveau d'un début de processus de justice.
Ah non, rien. Mais parce que je pense que ces crimes rituels ne sont pas des choses qui sont prises au sérieux.
Et s'il y a des filières, est-ce qu'Interpol peut s'en mêler? Forcément.
Normalement. Non, et c'est quelque chose à voir, parce que ça, c'est aussi quelque chose que les Nations Unies pourraient nous aider à ce niveau-là. C'est d'emmener ça plus haut. Il y a une experte indépendante qui s'occupe de ces cas-là. Et au fait, je crois que si elle est là, c'est pour se faire développer ce genre de choses.
Entre parenthèses.
Dans certaines régions du Bénin, les personnes atteintes d'albinisme sont considérées comme des êtres sacrés aux origines divines, selon notre correspondante Ginette Fleuradandé, qui a tendu son micro au roi des habitants de Choava, un village lacustre à quelques kilomètres de Cotonou. On l'écoute.
Ceux qui ont eu le don, la chance, l'honneur, le bonheur d'avoir des albinos n'ont qu'à s'occuper correctement de leur fils albinos. S'ils s'en occupent, ils ne seront jamais pauvres.
Mais la plupart du temps en Afrique, les albinos sont plutôt victimes de discrimination ou de persécution. Damien, jeune béninois atteint d'albinisme, a renoncé à sa scolarisation. Voici son témoignage dans le reportage de Ginette Fleuradandé.
Je me souvenais d'un jour là, j'étais au CM2. Je suis allé chez le maître, j'ai dit, s'il vous plaît, maître, je ne voyais pas. Il a dit, tant pis, c'est qu'il ne voit pas là. Il n'a qu'à bien ouvrir ses yeux quoi, pour voir quoi. Donc, lorsqu'il a dit ça, les gens ont commencé par rire, bon, pour les de l'âme ce jour-là, bon. Pour me faire peur aussi, il y a certains messieurs qui me disent, ah, je vais te placer maintenant sous le soleil maintenant, hein. Je vais te demander de regarder le soleil. Je me sentais vraiment lésé.
Mais depuis décembre 2012, l'ambassade des États-Unis au Bénin et l'association World Wide Connection travaillent à soutenir la protection des personnes atteintes d'albinisme. Il s'agit de sensibiliser les populations à prendre conscience de la vulnérabilité des albinos et à œuvrer pour leur intégration dans la société. 6 ans après, l'initiative semble avoir porté ses fruits.
Sur le plan intellectuel, on est étonné de leur performance intellectuelle parfois. On a un autre schéma en tête.
Moi, je pense qu'ils sont suffisamment concentrés pour qu'on puisse leur confier beaucoup d'activités dans les entreprises. Parce que c'est des gens, ils ne sont pas trop comme les autres où on bavarde. C'est des gens, quand on leur confie des tâches, ils sont beaucoup concentrés sur ça.
Les albinos comptent poursuivre l'éveil de la conscience collective afin que les personnes atteintes d'albinisme puissent être maintenues à l'école et que les problèmes de vision et les railleries ne soient plus les obstacles à leur épanouissement sur le plan intellectuel.
Ces personnes ne sont pas bien entretenues, bien encadrées en situation de classe, fait qu'elles abandonnent les bancs. C'est une chaîne. Et si on arrive donc à les maintenir à l'école le plus longtemps possible, on diminue le plus possible le risque de cancer.
Le chemin pour que les albinos s'intègrent dans la société béninoise et ne soient plus vus comme des personnes d'une autre dimension est bien long, mais c'est déjà une victoire que les meurtres dont ils font l'objet soient conjugués au passé et que de plus en plus leurs droits en tant que personnes à part entière prennent désormais tout son sens. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Makalou, vous avez souri quand le roi béninois a parlé pour célébrer l'albinisme.
D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que les albinos, quoi qu'il se soit, même s'ils sont célébrés, le roi, là, il a dit, oui, occupez-vous-en bien, vous n'allez jamais être pauvres. Donc, ça revient
c'est
encore...
une croyance.
Ça revient toujours à ces croyances par rapport aux personnes atteintes d'albinisme. Ce sont des personnes, comme toi et moi, ils sont juste des personnes, des humains.
On ne peut pas les considérer normalement, quoi, c'est ça le problème.
Mais voilà, c'est quand même, après un moment, il y a un blocage par rapport à ça. Oui, ok, c'est peut-être voir des personnes noires avec un enfant à la peau blanche, mais c'est aussi les Japonais, c'est aussi les Mexicains, c'est aussi c'est partout, c'est toutes les races, c'est des animaux aussi qui sont comme ça, c'est même dans les plantes, les oiseaux, donc c'est quelque chose qui arrive dans la nature. Et ils sont malvoyants, mais il y a beaucoup de gens qui sont malvoyants, qui ne sont pas albinos, donc ça peut arriver. Tout,
hein. Et autour de ce mouvement, il y a même eu un livre collectif, vous voulez en parler un petit peu?
Oui, donc j'étais marraine de la cérémonie de lancement pour cet ouvrage. Et c'est au fait des jeunes d'un peu partout en Afrique et du monde qui ont fait des poèmes par rapport à ce qui s'est passé avec Ramata. Donc c'est un ouvrage de poèmes collectifs et voilà, c'est sur le marché et c'est en vente et 70% des fonds récoltés.
C'est quoi le titre du livre?
Ça
vous a échappé, c'est pas grave, c'est encore tout nouveau. Je voudrais qu'on termine sur les membres de la famille. Vous l'avez entendu et vous le savez. Certains membres de la famille vont jusqu'à vendre leur enfant pour qu'ils subissent un tel sort. Quel message vous voulez envoyer à ces gens-là?
Ce sont des criminels. Hein. Un crime, c'est un crime. Vous tuez votre enfant, vous êtes criminel et vous méritez une peine maximum pour votre crime. Il n'y a aucune excuse, aucune compréhension de tuer un autre être humain. Ce n'est pas acceptable, ce n'est acceptable nulle part dans le monde.
Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils évitent d'en arriver là?
Ben, ouvrez vos yeux et vos cœurs à ce que vous avez devant vous. Un enfant, c'est toujours une bénédiction. Une maman
porte un enfant pendant 9 mois, cet enfant n'est pas né pour être un sacrifice.
Kumba Makalu, un grand merci vraiment pour cette émission, merci pour Nathalie. Le monde au féminin. Un grand merci à Fredner Kayemit et Wagner Robert à la production, et bien entendu le plus grand des merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. À très bientôt, au revoir.